Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22, dans le studio d'Europe Soir, on ouvre à présent, comme chaque soir, le grand débat du Club des Idées Haro sur la voiture. Faut-il bannir les véhicules des centres urbains? On en parle beaucoup en ce moment à Paris, à Grenoble et ailleurs, surtout après l'élection de maires écolos dans plusieurs grandes villes. Aujourd'hui, c'est Nantes qui annonce une limitation à 30 km/h quasiment partout en ville pour une circulation apaisée, dit la municipalité. Certains dénoncent une dictature du sans-bagnole, alors interdire jusqu'où? Écologie contre économie. On en parle ce soir avec nos invités, Frédéric Quéran. Vous êtes économiste, urbaniste, spécialiste de la mobilité urbaine à l'Université de Lille. Bonsoir.
Bonsoir.
Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jocelyne Juste, professeure, pédiatre. Vous êtes pneumo-allergologue à l'hôpital Trousseau. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Et Bassem Assé est avec nous par téléphone, premier adjoint à la mairie de Nantes. Bonsoir.
Bonsoir.
Peut-être d'abord une première réaction de votre part, Monsieur Bassem Assé, premier adjoint à la mairie de Nantes. Nantes qui a donc décidé aujourd'hui de limiter la vitesse dans la ville à 30 km/h. Pourquoi une telle décision ?
En fait, l'objectif principal de cette opération, c'est que l'on puisse apaiser les déplacements dans notre ville. Donc l'objectif principal est très simplement la sécurité et le sentiment de sécurité de tous ceux qui se déplacent dans cette ville, que ce soit à pied, que ce soit en vélo ou que ce soit en voiture.
Est-ce que vous pensez qu'on est dans un mouvement irréversible de la réduction de la place de la voiture dans les villes? Certains disent, les maires écolos, ils sont sympas, mais ils sont dogmatiques sur la voiture. Votre réponse?
Alors, à Nantes, en l'occurrence, je ne sais pas comment, dans quel état d'esprit c'est fait ailleurs, mais à Nantes, on n'est pas du tout dans une logique dogmatique, on n'est pas dans une logique d'opposition des uns aux autres, on est réellement dans une logique où, d'abord, on réduit la vitesse de circulation dans la ville à 30 km/h, à l'exception des axes structurants de la ville, qui eux restent à 50, pour permettre aux transports en commun de continuer à fonctionner avec le niveau de service. Donc en tout cas, quand on réduit la vitesse de circulation dans la ville de 50 à 30 km/h, c'est principalement pour une question de sécurité. C'est-à-dire que le fait de rouler à 30 km/h ne va pas en lui-même réduire le nombre de voitures. Vous voyez, on n'est pas du tout dans une logique de guerre contre ceci ou guerre contre cela.
Bien, vous restez avec nous, vous êtes toujours avec nous en direct, Bassem Assé, premier adjoint à la mairie de Nantes. Peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit, Yves Cara, vous êtes porte-parole de l'Automobile Club Association. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord sur le constat? Oui, il y a un mouvement de réduction de la place de la voiture dans les villes.
Ouais, on peut presque parler de harcèlement vis-à-vis des Français qui utilisent l'automobile et qui n'ont pas trop le choix, mais j'ai beaucoup aimé le discours du maire adjoint de Nantes, effectivement, dans les axes structurants, on garde le 50 km/h et sur les petites routes, ce qui est déjà le cas partout, et même spontanément, parce qu'on ne roule pas à plus de 30 ou 40 dans des petites rues où il y a des enfants. Enfin, normalement, on le fait. Hein. Si on le fait et si on roule plus vite, c'est pas normal. Donc, autour des écoles, autour des hôpitaux, il n'y a pas de débat. 30 km/h, c'est très bien. Sur les axes structurants, sur les quais ou autres, rester à 50, voire remonter à 70, ça me paraît une bonne chose.
Mais, voilà, mais c'est déjà favorable à une généralisation de ce type de limitation, parce que c'est le cas dans un nombre de villes déjà, et puis ça en prend le chemin. La ministre de l'écologie, Barbara Pompili, a dit que ça pouvait être une des mesures retenues de la Convention citoyenne. Hein. C'est ce qu'ont proposé les citoyens consultés par le président Macron.
Dans certaines villes, on aimerait rouler à 30 km/h en ville. En moyenne, ce serait bien. On est plutôt au-dessous, justement, à cause des embouteillages. Alors, fluidifier le trafic, peut-être un petit peu, effectivement, si on est à 30 au lieu de 50, ça demande encore à être vérifié. De toute façon, il y a une chose importante, c'est quand on prend une mesure, il faut l'évaluer. Il faut évaluer la vie sociale que ça représente. Il faut évaluer ce que ça donne comme vie dans la ville. Et j'ai entendu quelques micro-trottoirs, justement, à Nantes, de personnes qui disaient, c'était déjà pas facile de circuler, je venais pas beaucoup, je viendrai encore moins.
Alors, on va en parler tout à l'heure de l'impact économique aussi sur ces mesures de restriction de la place de la voiture dans les villes. Frédéric Quéran, vous êtes économiste, urbaniste, spécialiste de la mobilité urbaine à l'Université de Lille. Est-ce que c'est souhaitable de réduire la place de la voiture comme on le fait à Paris, comme on le fait à Nantes, comme on le fait à Grenoble, comme on le fait à Lyon, comme on le fait un peu partout, de réduire la place de la voiture dans les villes?
Oui, il faut comprendre que c'est un mouvement international qui concerne en fait tous les pays développés, toutes les grandes villes des pays développés. Nous, on est dans la moyenne internationale. On n'est pas du tout en pointe. Donc, on ne fait que prendre le mouvement avec un certain retard.
Mais vous entendez que ça fait grincer des dents.
Oui.
Et alors, beaucoup d'automobilistes disent qu'on est en train de transformer les villes en villes de bobos pour les cyclistes. Il y en a pour eux. Et nous, on n'arrive plus à circuler dans les villes où on a besoin de travailler quand même.
Oui. En fait, comme on n'est pas le premier pays à faire ça, il suffit d'aller voir dans les pays plus en avance toute l'expérience déjà accumulée.
Les Danois, les Suédois.
Les Allemands, notamment.
Les Allemands.
Alors, il y a eu énormément d'enquêtes avant, après. Vous voyez, avant le 30 à l'heure, après la généralisation du 30 à l'heure, le bilan, eh bien le bilan, il est toujours positif. C'est-à-dire, on n'a jamais rencontré une situation où, à cause du 30 à l'heure, ça a été la catastrophe.
Sur tous les plans, sanitaire, écologique.
Sauf sur un, c'est que c'est vrai qu'on ralentit, en ralentissant un peu le trafic, la vitesse moyenne, la vitesse de pointe se réduit de 40%, 50
oui.
à 30.
Oui.
Mais la vitesse moyenne, elle, se réduit seulement de 5%, soit pratiquement rien à l'heure de pointe, un petit peu plus en heure creuse. Donc en fait, l'impact est négatif est très faible pour beaucoup d'impacts positifs, et notamment sur les accidents qui se réduisent de pratiquement de moitié, etc.
Alors Jocelyne, juste, on va faire un truc qu'on fait souvent à la radio, on va faire un tease. On va donner envie de vous écouter parce qu'on va marquer une pause. Vous êtes professeur, vous êtes pédiatre, vous êtes pneumo-allergologue à l'hôpital Trousseau. En un mot, est-ce que la voiture, c'est dangereux pour la santé?
Oui.
Eh bien, on en parle après la pub. Après la pub, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec à 19h31, la suite du grand débat du Club des idées à Roux sur la voiture. On parle de la voiture qui a peut-être un avenir limité dans les villes. En tout cas, de nombreuses municipalités prennent des décisions anti-voiture ou pour réduire son usage et sa vitesse. Limitation à 30 km/h par exemple dans Nantes depuis ce matin. On en parle avec Frédéric Errand, économiste et urbaniste, spécialiste de la mobilité urbaine, avec Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association, et avec Jocelyne Juste, notamment professeur pneumo-allergologue à l'hôpital Trousseau. J'étais juste avec vous avant la pause, madame, et je vous disais, est-ce que la voiture est dangereuse pour la santé? Alors vous m'avez dit oui, ça nécessite évidemment quelques explications. Est-il vrai qu'on estime que sans la voiture, 48 000 décès seraient évités chaque année en France, dont plus de 10 000 à Paris?
Alors on sait que oui, la pollution atmosphérique entraîne 48 000 décès, voire 60 000 décès selon les études en France.
Liés à l'ensemble des mobilités type camion,
voilà. Alors, la part de la voiture là-dedans, c'est 30-40%.
Oui.
C'est la part majoritaire. En ville,
Oui.
En ville, la part majoritaire, c'est l'automobile. Voilà. Après, donc la pollution atmosphérique, les impacts sur la santé sont connus depuis les années 80. Alors, au début, on pensait que c'était uniquement les pics de pollution qui étaient nocifs pour la santé.
Alors, il y a un moment, vous savez, où on a réalisé que cette pollution due à la voiture était importante. Mm-hmm. C'est aussi pendant la période
confinement.
De confinement.
Tout à fait.
Parce que tout d'un coup, il n'y avait plus de voitures dans les rues et l'air était différent, nous disaient certains Parisiens que nous avons rencontrés. Écoutez ce monsieur, par exemple.
Ce que j'ai remarqué pour la première fois depuis très longtemps, c'est que le ciel n'était plus aussi bleu qu'il l'était lors du confinement. Voilà. Le ciel est un petit peu plus gris, j'ai même pensé que c'était des nuages. Et en regardant de plus près, on voit une espèce de couche, un peu comme une espèce de couverture. Et là, on se rend compte que c'est la pollution.
Voilà, Éric, piéton parisien, rencontré au micro de Justin Morin. Frédéric Errand, ça c'est aussi quelque chose qui va dans le sens de l'histoire. Il y a une adhésion de l'opinion publique en France aujourd'hui sur le fait que oui, comme disait René Dumont, la voiture, ça pue et ça pollue. René Dumont qui était le premier candidat écolo à la présidentielle, c'était dans les années 70, on en parlera justement tout à l'heure à 19h50. Votre réponse?
Oui, bien sûr, il y a une prise de conscience, mais on n'a pas encore pris la mesure de tous les problèmes posés par la voiture. Bien sûr que c'est une solution
parce
à la voiture,
c'est
mais c'est
contrainte
aussi
pour les Français,
oui,
cette histoire de réduction de la place de la voiture.
Oui. Alors justement, là, on parle beaucoup de pollution, de bruit, d'accident, mais aussi l'espace consommé par la voiture. Il faut savoir que dès que vous achetez une voiture, il vous faut absolument trouver 3 places de stationnement. J'ai bien dit 3 places. 1 place au domicile, 1 place au travail et 1 place partagée ailleurs, auprès des commerces, par exemple. Et puis, ça, ce n'est que le stationnement.
Oui.
Ensuite, il faut aussi tenir compte de la place utilisée par la voiture en circulation. Si bien qu'une voiture, à elle toute seule, utilise à peu près, hein, faire très simple, 100 mètres carrés. Voilà ce dont elle a besoin. Soit plus que pour se loger et pour... c'est 40 mètres carrés à peu près pour se loger, en moyenne, chez les Français, et 15 mètres carrés pour le bureau. Vous voyez, donc, la voiture, elle, toute seule...
La voiture.
Oui.
Oui. Alors, je vais donner quelques chiffres qui montrent quand même que les Français ont toujours du mal à se départir du tout bagnole. En 2016, à Paris, par exemple, un automobiliste passait, tenez-vous bien, en moyenne, 65 heures dans les bouchons. 65 heures par an passées dans les bouchons. Et les modes de déplacement motorisés représentent, vous le disiez, 13% des déplacements à Paris, mais occupent 50%.
Moins.
Pour...
moins.
Ah oui, on en est à 10%. On en est à 10%.
10%. Mais occupe 50% de la voirie. Ça va dans ce que vous expliquez. Ça veut dire que il y a peu de Parisiens, eu égard à l'intégralité de la ville, qui utilisent leur voiture, mais ça utilise quasiment la moitié des voies qui permettent de circuler. C'est cela ?
C'est tout à fait cela, oui. Et on ne tient même pas compte là-dedans, dans tous les espaces souterrains qu'on a construits à grands frais pour la stationner. Et qu'elle utilise moins de place en surface.
Alors, que répond le porte-parole de l'Automobile Club Association, Yves Carra ?
Trois places de parking, ça ne fait pas 100 mètres carrés. Hein. Je suis désolé.
Mais si, une voiture, ça ne fait pas 30 mètres carrés.
Mais si, parce qu'il y a les espaces de dégagement que vous oubliez.
Ah, d'accord. Et oui. Les espaces de dégagement, pas dans son parking quand même.
Bien, enfin, mais bref, c'était juste sur la place de la voiture, a-t-elle aujourd'hui encore sa place dans les grands centres urbains ?
C'est très étonnant parce que.
Tels qu'on les connaît aujourd'hui en France, en Europe, monsieur disait que c'était un mouvement international.
Aujourd'hui, la voiture est dans la ligne de mire. Mais il y a 20-30 ans, quand on parlait d'écologie, il fallait sortir du nucléaire. Absolument. Et puis on s'est rendu compte que le nucléaire, c'était pas mal parce qu'on payait l'électricité moins cher, on ne rejette pas de CO2, on est un peu indépendant énergétiquement, c'était bien.
Surtout aujourd'hui, à Fukushima.
Fukushima, oui, mais on n'a pas arrêté le nucléaire
ne pollue pas. En tout cas, n'émet pas de CO2.
Et Fukushima, c'est juste qu'elle était construite au mauvais endroit. On n'aurait pas dû la mettre là. C'est juste ça. Et Fessenheim, si on l'a fermée, c'est uniquement pour des raisons politiques. Et donc aujourd'hui, c'est la voiture. Alors que depuis 20 ans, mais regardez les chiffres, elle n'a jamais été aussi sûre avec toutes les aides à la conduite. Elle freine automatiquement. Donc pour percuter une voiture, vous pouvez fermer les yeux ou un automobiliste, elle s'arrête toute seule. Et elle n'a jamais. Et rejeter aussi peu de polluants. Et tant mieux, parce que c'est vrai que les diesels, il y a 20 ans, c'était de la boucherie. On est bien d'accord. Donc, il y a eu un effort de fait. Elle n'a jamais été aussi vertueuse et elle n'a jamais été aussi remise en question. Je pense que c'est un effet de mode. Dans 10 ans, on s'apercevra que toute l'industrie numérique rejette plus de CO2, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les chiffres, que le transport aérien. Donc, on passera peut-être au numérique. Mais la voiture existe. Vous savez, cette invention du début du XXe siècle, si elle s'est étendue, c'est qu'on en a besoin.
Oui.
Sinon, elle aurait disparu comme plein d'autres inventions. On en a besoin dans une société. La voiture est là, elle sera toujours là.
Mais ça crée des tensions aussi. On l'a vu à Paris. Alors peut-être que vous allez me répondre que c'est parce que les voies réservées aux voitures sont trop peu importantes. Ça crée des tensions entre les cyclistes, entre les piétons. Il y a une vous habitez Paris sans doute comme moi, vous traversez Paris tous les jours. Il y a une hystérisation aujourd'hui autour de la voiture. Est-ce que c'est dû à la réduction de la place de la voiture ou est-ce que c'est dû à l'objet voiture qui électrolyse les comportements ?
Alors, Paris est un cas à part, vraiment, surtout de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire opposer les gens les uns contre les autres et les modes de déplacement les uns contre les autres. Nous, Automobile Club, on fait des stages pour les seniors pour apprendre à rouler en vélo en ville. Vous voyez, donc on n'est pas du tout dogmatique là-dessus. Non, vraiment. Hein. Donc, il ne faut pas les opposer. Tout est complémentaire. Mais on doit avoir le choix de prendre sa voiture en ville. Aussi.
Jocelyne Juste.
Moi, je voulais dire quand même ce que je connais quand même et qui doit être au premier plan du débat, c'est la répercussion sur la santé de la pollution atmosphérique, et notamment chez les enfants et notamment chez les petits-enfants. Il y a des études très éloquentes où, aux États-Unis, ils ont suivi la croissance pulmonaire d'enfants normaux. Donc là, ils ne sont pas asthmatiques. La croissance pulmonaire dans les premières années de vie avant de prendre des mesures pour diminuer la pollution atmosphérique. Et on voit que la croissance pulmonaire est diminuée chez ces enfants soumis à la pollution. Et puis, on prend des mesures. On diminue la voiture. On favorise le vélo. On favorise le transport en commun. On fait le covoiturage. Et on reprend une cohorte de même enfant, toujours population générale, et on suit. Et il y a une croissance pulmonaire qui s'améliore.
Donc, il y a un effet réel et direct.
Réel et direct et réversible.
Alors, je vais vous poser une question et puis on va marquer une pause. Vous allez me faire comme tout à l'heure, un bon teasing, comme on dit en radio. plaisante. Non, c'est très sérieux parce que ce que vous dites est très intéressant. Et puis, la santé, c'est quand même ce qui nous touche en premier. Est-ce que vous pensez que, parce que je fais souvent l'analogie quand je discute avec des spécialistes, est-ce que vous pensez que dans quelques années, on se dira c'était comme la cigarette dans les lieux publics fermés. On se dira mais on était dingue, on roulait avec nos pots d'échappement dans les rues de nos villes, avec les enfants qui étaient à côté, dans les poussettes, avec nos anciens. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la même prise de conscience en ce moment qui s'opère ?
Je pense. Et je pense que la population commence à se rendre compte des effets sur la santé. Et pas seulement chez l'enfant.
Bien, mais on verra que réduire la place de la voiture, ça a aussi des enjeux et des impacts économiques. On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours nos invités du grand débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à la voiture. La voiture a-t-elle encore sa place en ville? Beaucoup de municipalités prennent des décisions pour réduire son usage ou pour réduire la vitesse des véhicules en centre-ville. 30 km/h par exemple, je vais y arriver à Nantes. C'est une décision qui est entrée en vigueur aujourd'hui. On en parle avec nos invités. Frédéric Héran, économiste et urbaniste, spécialiste de la mobilité urbaine à l'Université de Lille. Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. Jocelyne Just, professeur et pneumo-allergologue à l'hôpital Trousseau, et Bassem Assé, qui est toujours avec nous, il est premier adjoint à la mairie de Nantes. Justement, une question pour vous, monsieur le premier adjoint à la mairie de Nantes. Vous avez donc décidé cette limitation de la vitesse, 30 km/h dans les rues de l'hypercentre de Nantes. Avez-vous consulté les commerçants et tous ceux qui mènent une activité en centre-ville avant de prendre une telle décision? Je vous pose la question parce que c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui à bannir les voitures des villes avec un impact économique fort sur l'activité des petits commerçants. Votre réponse?
En fait, ce qu'on constate en général, c'est quand une rue passe d'une rue classique à une rue uniquement pour les piétons, l'activité s'améliore plutôt qu'elle ne décroît. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis aujourd'hui, mais dans la plupart des tests qu'on a pu faire cet été de villes qui passent, de rues, pardon, qui passent aux piétons, les commerçants étaient plutôt ravis.
Peut-être chez vous, mais à Lyon, par exemple, il y a une expérimentation qui a été menée sur tout un tas de rues du centre-ville. Ça s'est traduit par une baisse parfois de 80% pour les commerçants.
Non. Alors, on ne l'a pas constaté du tout, et je peux même prendre un autre exemple, au-delà des seules rues qui passent en piéton. Si on prend une rue dans le centre de Nantes où on a augmenté un peu la place du vélo, on a dû enlever quelques places de stationnement, donc oui. On s'est organisé pour que à la fois la voiture, le piéton et le vélo puissent trouver leur place dans cette rue. On a consulté naturellement les commerçants auparavant, et ils étaient tous partants. Bien. Donc en réalité, l'effet n'est pas nécessairement celui auquel on s'attend. Quand une ville est apaisée, quand les gens vivent bien dans leur quartier, dans le centre-ville, évidemment, ils vont être plus à l'aise pour aller boire un coup sur une terrasse ou pour aller chez un commerçant.
Merci, merci Bassem Assé d'avoir été avec nous depuis Nantes par téléphone. Merci pour ce témoignage, car c'est le point de départ de notre débat de ce soir. Alors, je voyais Frédéric Héran qui haussait les yeux quand je disais que ça se traduisait par une baisse d'activité quand on limitait la place de la voiture dans la ville. Je vais peut-être aller plus loin avec vous. Je vais faire un peu de provocation. Est-ce que ça n'est pas quand même une politique antisociale, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup, qui méprise un peu les habitants vivant en grande périphérie et qui n'ont plus de fait les moyens de venir en ville parce que la ville est fermée aux voitures?
Non, c'est bien plus compliqué. D'abord, ça dépend du type d'activité. Il faut distinguer au moins les commerces de proximité, les boulangeries, les boucheries, oui, etc., qui, elles, vivent essentiellement du flux de piétons. Et là, il n'y a pas photo, donc... Si vous favorisez l'usage de la marche ou du vélo, ils en profitent. Alors que les commerces dits de centre-ville, oui, c'est-à-dire avec une clientèle bien plus large, eux ont besoin effectivement d'une diversité d'accès, et il faut faire un peu plus attention. Il est clair qu'un commerce de meubles, il a besoin qu'on puisse emporter les meubles en voiture.
Commerce de textile aussi, c'est le cas.
Ou alors qu'on puisse, qu'il y ait un service de livraison, oui, chez le client.
Mais commerce textile aussi, par exemple, je vais vous raconter une histoire qui est la mienne, mais moi j'ai grandi à Blois. À Blois, c'était une ville où il y avait la voiture partout. On disait, tiens, je vais faire un tour en ville, vous savez, comme c'est en province, et puis on va faire ses courses. Et puis quand le centre-ville a été fermé à la circulation des voitures, c'était plus compliqué de venir parce que évidemment, on ne pouvait pas se garer.
Oui, mais en fait, il faut très, très simplement demander au client avec quel mode de déplacement ils viennent dans les commerces. Et souvent, les commerçants croient que tous leurs clients viennent en voiture. C'est absurde. Il y a une partie qui vient en voiture, bien sûr. Mais très souvent, la plupart du temps, et j'ai fait des enquêtes, j'ai interrogé quand même 1300 clients de commerces de centre-ville et de proximité, ce que l'on constate, c'est que les clients qui viennent en voiture sont minoritaires dans les grandes villes.
Jocelyne Just, peut-être une réaction sur ce sentiment anti-voiture en France. Est-ce que vous avez l'impression que l'opinion publique partage cette volonté de nombreuses municipalités et d'une certaine partie du gouvernement de faire baisser l'usage de la voiture en France? Qu'on dit que ce mouvement gagne aussi maintenant les campagnes.
Oui, je pense que les gens commencent à comprendre l'impact sur la santé, sont très sensibles à l'impact sur les générations à venir et les enfants.
C'est vrai qu'on a presque l'impression que maintenant, avoir une voiture, c'est ringard quand on habite en ville.
Écoutez, quand j'entends quelquefois des émissions à la radio où il n'y a pas de médecin, et sur la pollution, je me dis, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas la voix du médecin, quoi. De ce qu'on voit, nous.
Oui.
On voit des enfants extrêmement malades, des asthmatiques sévères, qui ne peuvent plus vivre à Paris, qui sont obligés d'aller dans des, à la montagne pour respirer un autre air. On voit des allergiques, des multi-allergiques qu'on ne voyait pas avant. Des enfants qui sont allergiques au pollen, aux fruits, aux légumes, parce qu'on sait l'impact des polluants sur, surtout sur les pollens et ce que ça donne. Et c'est inadmissible. On ne peut pas continuer comme ça.
On en parlera dans quelques secondes et on parlera notamment peut-être des solutions de demain, des nouvelles solutions de mobilité. On se retrouve dans quelques secondes sur Europe 1 à 19h47.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le grand débat du Club des Idées à 19h49, on est dans le studio d'Europe 1, on est en direct évidemment avec nos invités et on parle de la place de la voiture. La voiture a-t-elle encore sa place en ville et peut-être demain dans les campagnes? Tiens, Yves Carra, je voulais vous poser la question, porte-parole de l'Automobile Club Association. Quelle est la solution de demain? Rouler tous en électrique?
Alors, la solution de demain, elle est déjà là aujourd'hui. C'est-à-dire que plutôt que de dire quelle est la place de la voiture en ville, quelle motorisation utilisera la voiture essentiellement dans les villes. Je crois que c'est plutôt ça, parce que dans les campagnes, il n'y a pas de débat sur la pollution, c'est une question de concentration.
Oui.
Une voiture toute seule ne pollue pas, ça se dilue.
Mais est-ce qu'on peut, par exemple,
CO2, vous en faites quoi?
Donc le CO2, on travaille tous dessus, et on n'en a pas beaucoup. Vous savez qu'en matière de CO2, la France est quand même le meilleur élève de quasiment du monde entier en matière de CO2, grâce au nucléaire d'ailleurs.
Ça risque d'être compliqué de se passer les voitures dans les campagnes, non?
Je termine juste avec les solutions.
Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association.
Les solutions qui existent déjà, qui sont développées par les constructeurs, les voitures hybrides. Donc on est en ville, on ne roule pas vite, on peut rouler sur l'électrique, sur ces distances moyennes quotidiennes, tout va bien. Et puis quand on veut faire un grand trajet à sa maison de campagne, on est sur le thermique. Le thermique, vous avez le E85, le super-éthanol qui rejette quasiment peu de polluants. Vous avez l'hydrogène, il y a un plan hydrogène qui va être relancé justement. Donc ça, ça ne pollue pas. Donc
mais pour aller
la voiture
loin,
en ville sera toujours là, mais elle aura une motorisation différente.
Mais vous ne croyez pas à la fin de la voiture individuelle comme le prédisent certains, c'est-à-dire avoir des voitures en libre-service, utiliser l'autoport, avoir des voitures autonomes qu'on prend comme un taxi automatique, vous savez, il n'y a pas de conducteur et puis qui nous emmène d'un point A à un point B.
Ouais, moi quand j'avais 10 ans, on disait qu'on mangerait tous, lorsqu'on aurait 40 ans, des petites pilules et qu'il n'y aurait plus de fruits et de légumes. Ouais, il faut faire attention aux projections qu'on fait. D'abord, ce n'est pas de la voiture individuelle, c'est de la voiture familiale, parce qu'on est rarement tout seul dans sa voiture, ou quand on l'est le matin, on l'est aussi le week-end, on est quatre dedans. Donc attention à parler de voiture individuelle, c'est une mauvaise image.
Il nous reste peu de temps, Jocelyne Juste, et après Frédéric Hirant, vous êtes professeur. Pneumologue, allergologue à l'hôpital Trousseau.
Ouais.
Allez-y.
À propos de voiture familiale, quand vous êtes à l'intérieur d'une voiture, vous respirez un air plus pollué qu'à l'extérieur.
Ah bah vous,
et les gens ne le savent pas, ça.
Vous allez nous dire quelque chose de très positif pour terminer.
Ben non.
Mais c'est pas rassurant du tout, ça.
Ben c'est pas rassurant du tout. Quand vous mettez un bébé à l'intérieur d'une voiture fermée, il va inhaler encore plus de pollution
donc
qu'à l'extérieur.
Non seulement il ne faut pas être à côté de la voiture, mais il ne faut pas la conduire.
Ça veut dire que la voiture en général, si vous voulez, ça pollue à l'extérieur et à l'intérieur.
Je suis d'accord, mais vous savez, dans la couleur du métro, il y a 20 fois plus de particules que sur le trottoir. Il y a du polluant partout, malheureusement.
Quelle alternative sur le long terme, Frédéric Hirant, pour clore ce débat?
Alors, ça va être difficile d'avoir un point de vue un peu nuancé après les 4 pubs pour la voiture qu'on vient d'entendre.
Ça, c'est la vie de la publicité à la radio,
mais,
vous savez.
Donc, en réalité, la solution consiste à réduire progressivement la place de la voiture.
Y compris dans les campagnes.
Mais bien sûr, et y aller progressivement.
Comment on fait?
Eh bien, il y a toutes sortes de solutions qu'il faut explorer. Donc, je peux en parler. Évidemment, c'est en ville qu'elles sont actuellement le plus explorées. Donc, c'est difficile d'imaginer autre chose en périphérie. Mais allez voir dans des pays beaucoup plus en avance, comme les Pays-Bas. Ils ont déjà des solutions qui, si j'en parle, vont vous paraître totalement...
Allez-y.
Par exemple, le vélo mobile. Qui connaît le vélo mobile? C'est un tricycle caréné. Donc, une sorte de vélo couché. On pédale couché.
Emmener ses enfants à l'école quand on a 5 km à la campagne à faire tous les matins.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des places pour les enfants derrière. Et bon, ce genre de véhicule existe déjà, mais c'est inconnu au bataillon. Il n'y a aucune pub là-dessus, vous comprenez?
Bien,
donc,
eh bien, on
c'est
va
difficile
la
d'imaginer autre chose que la voiture quand...
vélo mobile.
Voilà.
Voilà.
Mais ce n'est qu'une solution parmi beaucoup d'autres les transports publics ont aussi un rôle important.
Mais c'est toutes les solutions alternatives sont évidemment intéressantes à comprendre et à connaître. Merci à tous les trois. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur les alternatives notamment. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire. Merci à tous les trois.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.